De retour sur le direct de la fête de la transhumance avec autour de la table le CRPF, l'ADEME, André Aubanel, Marie Cabrol et Micheline Falcon. Vous, vous êtes là pourquoi ? Prenez un micro tous dans vos mains.
En tant qu'éleveuse bergère.
Ah, en tant qu'éleveuse, voilà. Et vous êtes à Valdrome.
Et je suis à Valdrome.
Très bien. Cette année, la transhumance, on l'a pas encore dit ce thème, puisque c'était pas le sujet, c'était les brebis sortent du bois. Alors ça va être l'occasion de parler un petit peu justement de cette forêt, de son lien avec l'économie pastorale, et notamment avec le CRPF, hein, qui s'occupe par exemple des forêts privées. Et puis le reste, c'est le département, il me semble, et quelques communes qui se les partagent. Par contre, on commence, Marie, un petit contexte ?
Oui, merci Baptiste. Alors, juste pour rappeler que chaque année, depuis 5-6 ans, on traite d'un thème différent à la fête de la transhumance. On a traité la problématique des chiens l'année dernière, des chiens de protection, chiens de conduite. On a parlé des métiers de berger, d'éleveur, peut-être en 2011 ou 2012, je ne me souviens plus. Les produits issus du pastoralisme, donc la viande, le lait, la laine. Et donc cette année, on a choisi avec l'équipe de la fête de parler de pastoralisme et forêt, parce que on va le voir avec André et Micheline, on a de nombreuses problématiques autour de la forêt qui ne sont pas les mêmes en fait que des problématiques du 19e siècle. Donc nous découvrons tout au long du week-end en quoi et comment l'équilibre entre le pastoralisme et la forêt est en constante recomposition en fonction des enjeux du territoire. On va aborder la question de la prédation, la question du changement climatique. Le rôle de la forêt est très différent aujourd'hui par rapport à avant. L'aménagement des paysages de montagne aujourd'hui n'est pas abordé de la même façon par les forestiers et les éleveurs qu'il y a plusieurs décennies, voire siècles. Voilà.
Par exemple, sur Valdrome, notamment, Borrières, c'est des zones qui ont été entièrement reboisées et dont on ne s'imagine pas qu'il n'y a pas si longtemps, la photographie existait, il n'y avait aucun arbre. Des problématiques notamment de glissement de terrain, ça a été les premiers arguments pour se mettre à reboiser. Mais en même temps, il y a cette économie pastorale qui, elle, ouvre ou réouvre ou maintient ouvert des espaces. Donc finalement, on va parler de cette forêt. Est-ce qu'elle est importante, dense ? Est-ce qu'elle prend le pas sur ces paysages ouverts ? Ou est-ce qu'au contraire, on a bien réouvert ? André Aubanel.
Oui, quand on parle de la forêt, quand même, il faut bien, et particulièrement dans le département de la Drôme, il faut bien situer quand même que suivant où on se trouve, dans la Drôme des collines, avec du châtaignier, avec du robinier, c'est pas tout à fait la forêt telle que les gens l'entendent. Quand on parle de la forêt du massif du Vercors, oui, c'est la forêt avec les sapins, les épicéens, il n'y a pas beaucoup d'herbes, sauf dans des zones ouvertes. C'est encore une autre forêt. Puis il y a quand même tout le reste de la Drôme où j'ose à peine employer le mot forêt, c'est un espace boisé. Alors, c'est déjà que dirait, on a une vision différente par territoire de cette vision de la forêt ou des zones couvertes d'arbres. Hein, c'est pas la même sensibilité qu'on a sur chacun. Quand on est sur le pastoralisme, on est sur la zone les Baronnies, le Lodiouin. Ouais. Et on va retrouver quand même des traditions millénaires, puisque les drails, les sentiers, c'est depuis l'an 800 que les transhumances se font, sur des hauts plateaux complètement ouverts. Donc c'était des espaces quand même complètement ouverts qui, petit à petit, se sont quand même colonisés par le pin accroché notamment. Donc il y a des actions qui sont faites aussi pour conserver cet espace ouvert. Je dirais quand même si ce n'est pas une science exacte, c'est relativement facile de conserver ces grands espaces ouverts où je suis en train de parler de la réserve des hauts plateaux, par exemple, où il y a quand même, ça fait 16 000 hectares qui sont faits. Quand on est sur les contreforts du Vercors, c'est beaucoup plus compliqué parce que cet espace est refermé. Moi, je vais reprendre des propos que j'ai tenus ce matin à l'inauguration.
Mais on n'était pas en direct alors.
Ouais. Je vais vous dire un secret. pourquoi un secret que tout le monde connaît, mais, et que personne ne veut reconnaître, c'est que l'espace forestier, boisé, s'est refermé très fort. Dans le département de la Drôme, quand même, on a une croissance, on va arriver au mouton tout doucement, on a une croissance de cet espace boisé de 2000 hectares par an. C'est énorme. Si on reprend les statistiques qui ne sont pas des professionnels, celles qui sont du conseil départemental, on avait de mémoire 230 000 hectares d'espace boisé il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, le même conseil départemental qui suit de près notre forêt départementale, on en est à 255 000 hectares. Vous voyez, ça va quand même très très vite pour dire que cet espace se referme. Bon. Un, nous autres, on considère que c'est un manque de gestion, que c'est une calamité économique, parce que ce bois, il faudrait, pour des raisons économiques, pour des raisons environnementales, pour des raisons de biodiversité, il faudrait le réouvrir. Et cet accroissement biologique, naturel, annuel de 2000 hectares, on n'en prélève que 30%. Donc ça ne fait que de se refermer. Notre rêve, j'ai rêvé une fois, qu'on pourrait réouvrir tout cet espace forestier. On parlera un petit peu du reboisement après du RTM de façon différente. Mais sur une règle générale et par rapport au pastoralisme, il faut qu'on réouvre cet espace forestier à une condition. Et la condition, c'est qu'il soit entretenu derrière. Et la meilleure façon que je connais de toute une carrière d'une soixantaine d'années, c'est d'y mettre du pâturage. Si on revient un petit siècle en arrière, nos forêts étaient ouvertes. C'est celle qu'on a découvert, les photos dont on parlait tout à l'heure, où il n'y avait pas d'espace boisé. Les forêts, elles étaient ouvertes, il y avait de la lavande, il y avait des champignons, il y avait tous les animaux qui tenaient entretenus. Il y avait les éleveurs qui allaient couper les branches pour faire de la feuille pour nourrir les animaux l'hiver. Donc, ils restaient ouverts. Ça, c'est pas qu'on ne sait plus faire. On ne peut plus faire. Par contre, on a toujours un élément qu'il faut cultiver au propre comme au figuré, c'est y maintenir une pression d'élevage pour tenir cet espace ouvert. J'en dis simplement un mot complémentaire. Quand je parle de pression d'élevage, c'est pas de laisser, pour les éleveurs vont comprendre de quoi je parle, c'est pas laisser courir un troupeau qui va le passer en mangeant que les meilleures herbes. Un bon berger, et à mes yeux, il va maintenir un certain temps pour que les meilleures herbes soient consommées, mais ce qui va pousser les buissons, les petits arbres, etc., qui soient aussi mangés pour tenir cet espace ouvert. Voilà un petit peu le profil très très général de la vision des choses que j'ai.
Et quand on parle d'espace ouvert, c'est donc bien des forêts dans lesquelles on peut se promener, parce que les forêts fermées dont vous parlez là, c'est des forêts qui sont tellement denses que c'est pas du tout praticable, même à pied, hein, les gens s'en rendent compte.
C'est une forêt, je dirais même, où l'individu ne peut presque plus y rentrer, ou en cherchant des petits chemins, tellement c'est touffu, tellement il y a des buissons, tellement il y a des broussailles, on ne peut plus y rentrer. Donc, j'ai une vision quand même un petit peu, avec beaucoup de recul des choses, hein. Je dirais, j'ai entendu autour de moi qu'on aura subi deux catastrophes. On a subi une catastrophe, au dire de certains, que la forêt se referme. Il y a quelques années, on avait des financements pour réouvrir la forêt. Et c'est vrai qu'une forêt où on avait pris ses habitudes de l'avoir petit à petit gagné du terrain, on y a mis des engins, entre guillemets, malheureusement mécaniques, pour réouvrir cet espace pour faire du pastoralisme. Tout le monde a crié au secours. Deuxième catastrophe, c'était qu'on réouvrait la forêt. Alors, il faut le faire peut-être de façon maintenant plus expliquée, de façon plus raisonnable, de façon bien en partenariat, je cherche mon mot, avec les éleveurs, où on redonne de la lumière au sol, on laisse repousser l'herbe et on l'entretient. Hein, c'est la vision des choses qu'on a depuis bien bien longtemps, qui n'est pas ce que voit tout le monde.
Alors si des auditrices, auditeurs suivent un peu cette fête de la transhumance sur les années précédentes notamment, et tu le rappelais Marie, on a déjà abordé un petit peu ce sujet qui est que dans une prairie ouverte, la biodiversité est plus grande que dans une forêt extrêmement fermée, dans laquelle effectivement le soleil ne passe plus. Micheline, alors du coup, par exemple, comment vous, vous travaillez avec la forêt en tant qu'éleveuse ?
Oula, vaste question. Eh bien, nous, jusqu'à présent, enfin, moi, maintenant, j'ai cessé mon activité. Hein. Je suis à la retraite depuis 2 ans, mais j'ai élevé des brebis pendant plus de 30 ans. Donc, l'histoire avec la forêt, ça a été une longue histoire. Au départ, nous, on a pas mal, comment dirais-je, sur nos exploitations propres, pas mal travaillé pour débroussailler, pour voilà, que les surfaces restent bien pâturables facilement. Seulement, nous sommes cernés, je dis bien cernés, par l'ONF, qui a planté énormément, qui a planté dans certains coins à juste titre par rapport à l'érosion donc, au début du siècle, mais qui a planté du pin noir. Et ce fameux pin noir est très envahissant. Donc, alors il y a 2 problèmes. Dans un premier temps, l'ONF avait une politique très stricte par rapport aux éleveurs. On ne pouvait absolument pas aller sur leur territoire alors que... Bon, voilà. Donc ça a été assez, assez rude, nos relations ont été assez rudes. Et puis, on va dire depuis 20 ans à peu près, me semble-t-il, une vingtaine d'années, leur politique a changé parce qu'ils se sont aperçus que ils avaient besoin que leur forêt soit entretenue. Donc on nous a donné l'autorisation d'aller garder, voilà, avec des arrangements. Et je dois reconnaître que c'est vrai, les années difficiles avec la sécheresse et tout ça, on avait la possibilité de pouvoir un peu aller dans l'ONF, ce qui nous a, dans un premier temps, bien arrangé. Mais, par contre, l'inconvénient, c'est que, comme je disais, bon, moi, je n'y connais rien. Je suis pas du tout... je suis bergère, éleveuse. Je vous raconte que ce que je vis. Hein, je suis pas du tout scientifique. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils ont planté pratiquement... Enfin, nous, chez nous, que des pins noirs. Qui est une espèce très envahissante. Et le problème, c'est que maintenant, même nos parcelles qui ne sont pas ONF sont envahies par les pins. Et nous, c'est une lutte perpétuelle. C'est une lutte perpétuelle de pouvoir toujours maintenir nos surfaces correctement, sans cet embroussaillement et ces pins. Parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a les pins... alors, dans un premier temps, donc l'expérience de Valdrome, de la forêt, je pourrais en dire un mot... Dans un premier temps, les pins sont petits, donc tout va très bien, les brebis circulent, voilà, ça se passe. Et puis tout à coup, bêtement, au bout de 10 ans, on se dit, oula, mais on ne peut plus y aller. On ne peut plus aller dans certaines surfaces parce que c'est trop embroussaillé, les pins ont pris de la hauteur, la lumière ne vient plus, bref, et puis la ressource fourragère diminue. Et donc, les espaces se réduisent. Et quand vous parliez de la progression de la forêt tout à l'heure, il suffit simplement d'aller se balader un peu sur les hauteurs, vous regardez le Diwa, enfin, moi, de mon point de vue, et on n'a pas tous la même façon de voir les paysages, mais pour moi, c'est une catastrophe, parce que je ne vois que de la forêt. Et je ne vois que de la forêt de pins. Parce que c'est vrai, la forêt avec des feuillus mélangés, c'est bien, mais cette forêt de pins, et de pins noirs notamment... Voilà. Pour nous, pour le pastoralisme, c'est un handicap.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire ? C'est-à-dire les couper quand ils sont jeunes, passer son temps à veiller cette... Alors, on a quand même le droit de les enlever, les arbres, sur sa propriété.
Oui, alors pour chez nous, oui, c'est ce qui se passe. C'est que maintenant, effectivement, on essaye de les... On les coupe dès que ça pousse. Mais bon, c'est un travail supplémentaire. Et moi, j'ai gardé pendant 30 ans sur la montagne de Valdrome, qui est une estive avec une très belle pelouse, renommée pour sa diversité, pour sa biodiversité.
La pyramide, la fameuse.
Notamment la pyramide.
La zone c'est... Natura 2000, etc.
Voilà. Ah ouais. Donc avec un site Natura 2000. Les scientifiques sont venus répertorier, s'extasier devant la multitude de plantes qu'il y a sur notre chère pelouse, et qui quand même est entretenue par les moutons, il faut bien le dire. Et moi, dans un premier temps, lorsque je suis arrivée sur cette montagne, il y a 30 ans, et sur la pelouse, il y avait des petits pins. Je n'y ai pas prêté garde. Enfin, bon, puis j'étais un peu novice dans l'histoire. Et en fait, on s'est fait gagner, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il aurait fallu les couper, ces petits pins. La bergère, moi, personnellement, j'aurais dû les couper, ces petits pins. Je regrette fortement de ne pas l'avoir fait. Je l'ai fait les dernières années, mais voilà, il y avait déjà pas mal de... Et pour aller me promener un peu sur les autres estives, maintenant que j'ai un peu plus de temps, je m'aperçois que, eh ben, qu'il y a beaucoup de zones qui se sont emboisées, même sur le plateau, les hauts plateaux, et que les bergers n'y vont plus. Mais alors là, ils n'y vont plus. D'une part, les forêts qui sont trop denses, effectivement, comme disait monsieur, il n'y a plus de ressources fourragères dessous. Et maintenant, nous avons un problème supplémentaire qui n'est pas des moindres et qui, hélas, compromet beaucoup notre métier, c'est le loup. C'est-à-dire qu'à cause du loup, eh bien, on ne va plus dans la forêt. Moi, personnellement, je m'en suis sortie parce que, par exemple, on a vécu la période de 2003-2008 où il y a eu une sécheresse épouvantable. Nous en sommes sortis parce que, grâce à l'ONF et à des particuliers, on a pu aller garder dans la forêt. Mais ce qui veut dire que je rentrais, moi, le soir de nuit. Hein, je rentrais à 11h du soir parce que c'était plus éloigné de là où j'étais. Chose que je ne pourrais absolument plus faire maintenant. Hein. Ça, avec le loup, je ne pourrais plus le faire. Et j'ai rencontré d'autres bergers, notamment sur le Jardin du Roi. Il y a des coins où ils ne vont plus parce que, bon, bah, à chaque fois, c'est bon, quoi. Le loup se sert. Enfin, il ne peut pas maîtriser la situation. Et alors, d'une part, il y a la forêt qui envahit. Maintenant, on délaisse le peu où on pourrait encore y aller parce qu'il y a le loup. Et les paysages se referment. Pour moi, c'est une désolation. Bien que, ceci dit, j'aime beaucoup la forêt. Et on a aussi besoin de la forêt. Parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir des coins frais où on peut mettre les brebis à l'abri quand il fait mauvais temps ou quand il fait très chaud. Mais voilà, il faut un juste milieu. Et là, vraiment, moi, je le vois sur ma commune où nous sommes plus que quelques... Enfin, il n'y a plus qu'un éleveur, plus qu'un groupe d'éleveurs, un gang d'éleveurs. Eh bien, les surfaces s'amoindrissent, quoi. Et bientôt... impénétrable.
Voilà. La forêt qui avance, c'est donc parce qu'il y a de moins en moins d'éleveurs, sans doute parce qu'il n'y a pas une volonté politique précise d'exploitation, on l'a dit aussi, de ce bois hein, qui pourrait être exploité. On a planté une mono-essence. Marie, un peu pour l'ADEME, l'Association départementale d'économie montagnarde, cette forêt, vous la voyez avancer à fond la caisse. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place hein? On voit les impluviums, on voit les passages à bêtes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire, là, groupé, face, contre cette forêt qui, on l'a bien dit, a une utilité quand même hein?
Alors, il y a plein de projets qui sont faits en partenariat avec les forestiers, avec le CRPF et l'ONF depuis des dizaines d'années. Donc, on a mis en place des pistes sylvopastorales, on a fait par exemple sur la montagne à Valmeur-Avel tout un travail avec les forestiers pour par exemple introduire un impluvium. Donc un impluvium, c'est ces grands bassins d'eau qui récupèrent l'eau de pluie, l'eau du ciel, qui permet à la fois d'abreuver les troupeaux et à la fois de servir de DFCI. Donc en cas d'incendie, il y a cette réserve qui existe. Et donc on essaie de mener de façon concertée des projets qui sont à intérêt commun. Voilà. Après, de façon générale, on accompagne les éleveurs et les groupements d'éleveurs qui ont des projets de réouverture de milieux. Alors on fait très peu de coupes rases. On met la priorité à refaire de la circulation en sous-bois pour que les brebis puissent circuler et surtout pour que les prairies intra-forestières, comme on trouve beaucoup dans le Vercors, ne se referment pas. Parce que sinon, si on faisait de la coupe, on en aurait pour des siècles. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre entre la réouverture du milieu, refaire passer les bêtes, refaire de la circulation et surtout que les troupeaux aient un impact suffisamment fort pour que la végétation ne repousse pas derrière. Sinon, on jette l'argent par les fenêtres et alors les actions n'auront servi à rien. Ensuite, je pense que André Aubanel peut témoigner des projets un peu plus lointains, je ne les ai pas encore là, sur Chamaloc où il y a eu des groupements forestiers où les propriétaires fonciers se sont regroupés pour se sont organisés pour faire des projets sylvopastoraux. Je suis trop jeune pour en parler, c'est plutôt André qui pourra en parler. Mais juste pour revenir, avant de passer la parole, je voulais revenir sur ce que Micheline disait tout à l'heure, qu'elle a passé ces dernières années à couper des petits pins à la montagne de Lop, sur Valdrome. C'est vrai, les éleveurs aujourd'hui, ils sont donc regroupés en groupement pastoral. Leurs animaux sont mélangés, ils montent en estive pour aller pâturer les montagnes. La plupart de nos groupements pastoraux sont sur des milieux où la biodiversité est reconnue, où on est en zone Natura 2000. Et sur ces zones Natura 2000, les éleveurs, la plupart du temps, ont un contrat avec l'État pour, donc c'est des contrats de mesures agro-environnementales et climatiques qui engagent les éleveurs à avoir de bonnes pratiques ou à maintenir leurs bonnes pratiques environnementales et notamment sur l'OP. Enfin, en fait, la plupart de ces contrats ont comme mesure de couper des petits pins parce que c'est la problématique, une des problématiques phares que l'on trouve sur nos montagnes. Ce sont ces prairies qui se referment et que l'on n'arrive pas à maîtriser. Voilà.
Oui, André, quelques exemples alors de gestion de cette forêt manière, c'est un beau mot, ça, sylvopastoral.
Ouaf. On a deux jours devant nous, là.
Oui.
Le samedi et le dimanche. Ouais. Non, il faut. Tout à l'heure, je disais quand même, c'est une vision des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. La réouverture de la pâture dans les territoires de l'ONF, grosso modo, ça remonte à 2003. Et vous savez pourquoi 2003, hein, c'est que, voilà, moi j'ai été sur une commune de Chamaloc avec des pâturages à transhumance, avec des forêts communales ou départementales soumises sous la gestion de l'ONF. Et c'est vrai que dans les troupeaux, il y avait des chèvres, et par rapport à la régénération de la forêt, on aimait pas trop ça. Donc, c'était niet élevage. Et 2003, l'année de la canicule, elle a eu quand même quelques bienfaits, notamment sur la vision des gens que l'administration avait sur la forêt, en disant oui, ces éleveurs sont dans la peine, ils n'ont plus rien à manger, il fait trop chaud, donc allez, on va faire un effort, je ne suis pas trop caricature, et on va leur laisser permettre de venir dans nos forêts. Et c'est pas un miracle, c'est une reconnaissance des bonnes choses, ils ont dit oui, c'est mieux derrière. Ouais. Et ils ont continué dans ce sens-là. Ils ont eu un bel exemple de leurs beaux gestes et ils ont continué dans ce sens-là. Donc c'est OK. La monoplantation du pin noir, c'est pas des espèces envahissantes, c'est, on remonte un siècle en arrière où il y avait tellement d'érosion que tout descendait, des déblaiements de terrain, beaucoup d'érosion, tout descendait dans les rivières et ça bouchait les rivières. Donc, chaque chose en son temps. On a commencé à planter une espèce très adaptée à nos terrains, qui est le pin noir d'Autriche. Voilà. Bon, ça a sacré bien marché. Sauf qu'on en est un siècle plus tard. Et un siècle plus tard, il faut y couper copieusement dedans, à condition qu'on n'ait pas des associations de prétendues soutenir la nature qui vont crier au secours chaque fois qu'on va couper un arbre. C'est des plantations. Donc les plantations, ben, elles sont faites non pas ce qu'on appelle nous autres en futé jardiné. Il y en a un petit peu de tous les âges, de toutes les espèces. Ben, ça a été coupé d'un coup. On s'arrange sur une dizaine d'années. D'une façon ou d'une autre, on ne fait que de s'améliorer. On a la volonté de s'améliorer. Mais que tout ça se divertisse un tout petit peu, ces monoplantations. Il ne faut pas une seconde dire que dans notre département, il y a trop de résineux, trop de résineux, trop de résineux. On a 60% de feuillus dans notre département. La large majorité des arbres, c'est des feuillus. On a plus de 60% de feuillus. Oui, on a des territoires, notamment le nôtre, où...
Le Diwa, oui.
Moi, j'ai parlé du Diwa.
Pardon, parce que je parle de façon plus générale. Mais quand même, c'est pas la cause, c'est la conséquence du RTM qui a fait ça. Maintenant, je dirais, il faut l'exploiter dans l'autre sens. On a énormément besoin de bois énergie, donc il faut, sur Justin, sur Valdrome, il ne faut pas crier au secours quand on voit descendre les camions de bois. Il y en a trop, il faut l'ouvrir. Donc le pin noir est une essence qu'il faut gérer et qu'il faut couper quand elle arrive sur un diamètre à maturité, que ce soit faire pour du bois d'œuvre, que ce soit pour faire du bois énergie, pour faire de la plaquette pour le chauffage. Hein. Donc, dirais, si ça a colonisé, il faut peut-être se poser la question pourquoi nous autres, dans le milieu forestier, le bois, on dit, pour nous, ça s'appelle des accrues. Et c'est quoi les accrues ? C'est les terres agricoles abandonnées, plutôt un petit peu fertiles, où le bois s'est bien implanté. Alors la raison, est-ce que c'est la faute du bois qui a colonisé, ou est-ce que c'est la faute qu'on n'a plus assez d'agriculteurs dans nos montagnes ? Il faut peut-être qu'on se pose la question dans ce sens-là aussi, parce que si ça a poussé, moi il y a des champs qui, il y a 20-30 ans, c'était des champs de lavande, c'était des prés, etc. Aujourd'hui, c'est des forêts de pins. On a un espace qui est plein de chez nous, qui est entre la Motte Chalancon et le col de Prémol. Il y a un plateau de 500 hectares. Sur ces 500 hectares, le propriétaire m'a fait visiter un jour, en me disant, Pio Banel, quand j'étais jeune, alors ça doit faire un siècle de ça à peu près, c'était tout bleu de lavande. Il n'y avait même pas un arbre pour se mettre à l'ombre. Aujourd'hui, c'est une forêt. Mais c'est bien parce qu'on ne l'a plus cultivée. C'est bien parce qu'il n'y a plus personne dans ces zones de montagne pour tenir cet espace ouvert. Il faut peut-être y penser de ça. Et quand on dit, est-ce qu'on peut mettre, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut mettre des brebis dans des plantations de pins ? Oui, je l'ai fait en 1982. C'est-à-dire qu'on avait notre massif entre Chamaloc et Romeyé qui était accessible à peu près que pour les sangliers. Ouais. La main un peu lourde, j'ai entendu beaucoup de choses, ça c'est sûr. On a d'autres solutions maintenant, beaucoup mieux adaptées, mais on y a mis les bulldozers et on a replanté une centaine d'hectares de pins. Voilà. Là-dedans, on a passé une convention avec le pastoralisme. Ça a permis de faire une installation de quelqu'un qui a fait du bois de chauffage. Ça a permis l'installation de quelqu'un qui s'est mis sur le pastoralisme. Et aujourd'hui, le groupement pastoral sur place, il a aujourd'hui le troupeau qui monte au col de Rousset, va s'arrêter chez nous. Voilà. Ils vont y pâturer très largement, ils vont y pâturer une partie de l'année, ils vont y pâturer à la descente des alpages. Aujourd'hui, mais on ne cesse, je dirais, d'écarter les arbres pour plusieurs raisons. L'incendie, ça a été dit. Faire pousser l'herbe dessous, bien entendu. Les arbres, s'ils ont plus de place, que les branches ne se touchent pas pour la croissance, c'est bien aussi. Et puis peut-être aussi maintenant, et je mets carrément dans le fil de ce que disait Madame éleveur il y a quelques secondes, c'est qu'au plus le paysage est ouvert, au plus les animaux ont de la vue plus large à suivre le troupeau visuellement par rapport à la prédation du loup. Tout ça, c'est formidablement complémentaire à condition, tout à l'heure j'en donnais une, maintenant je vais en donner deux de conditions, mais qui est de l'élevage dessus pour maintenir l'entretien, mais aussi à la condition qu'on ait la volonté de gérer la forêt. On peut aller plus loin même, on peut parler du bilan carbone derrière, mais c'est sur une forêt neuve, sur une forêt qui pousse, on aura le meilleur bilan carbone. C'est là-dessus qu'on l'aura. Donc, il ne faut pas hésiter d'ouvrir, de couper. J'ose pas dire 10 fois plus qu'on ne le fait aujourd'hui, mais au moins 5 fois plus qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est bon pour l'économie, je répète, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la biodiversité, c'est que du gagnant-gagnant.
Alors, la prédation, quand même, là, on va devoir s'arrêter dessus, parce que plusieurs problèmes à l'abandon de ces terres agricoles. Hein. Évidemment, un exode rural qui ne cesse de s'arrêter hein, depuis déjà de nombreuses années. On continue encore avec la casse des services publics, par exemple, sur notre territoire, c'est encore plus flagrant. Et il y a ce loup. Donc, deux choses qui font qu'aujourd'hui, être éleveur en montagne, c'est hyper compliqué, voire presque impossible. Les gens craquent. Hein. Micheline, je me retourne vers vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ce loup ? Est-ce que la volonté politique, d'une part, doit être d'exploiter cette forêt, certes, mais aussi, finalement, à un moment donné, d'aller aussi l'embêter, cet animal ?
Ben moi, je pourrais avoir qu'une parole politiquement incorrecte. C'est-à-dire que, enfin, moi, la conclusion que je tire, c'est que nous, éleveurs, bergers, on ne peut pas vivre avec le loup. On l'aime bien, ce loup, pourquoi pas, mais on ne peut pas vivre avec. Ça sera ou lui, ou le pastoralisme. Moi, je suis assez pessimiste, parce que j'entends, oui, on entend tout. Et oui, vous ne gardez pas vos brebis. Moi, personnellement, je pensais être une bergère modèle, parce que j'étais toujours avec mes brebis. Je gardais, j'avais des petits agneaux, donc ça me demandait plus de surveillance. Eh bien, j'ai quand même été attaquée. Donc, nous avons mis des mesures en place, dormir avec les fenêtres ouvertes, même au mois d'octobre, les projecteurs, etc. Nous n'avons pas, dans un premier temps, pris de chiens de protection parce que nous étions sur une montagne où il y avait une petite station de ski qui faisait des activités d'été. Donc, pour rester en bon terme avec tous ces gens-là, nous n'avons pas pris de chiens de protection. Et je me suis donc fait attaquer. Puis après, je vais vous dire simplement, moi, je ne sais pas, garder, avoir le plaisir de bien faire manger ces animaux, qu'ils soient... C'est un plaisir, mais quand après, vous êtes en train de garder et d'être toujours sur le qui-vive, voir qu'est-ce qui bouge là-bas, qu'est-ce que c'est ce truc noir, etc. Non, ben, y a plus de plaisir. Alors, quand il n'y a plus de plaisir pour garder, c'est un métier qui est un peu spécial, voilà. Et maintenant, il y a une bergère qui a été embauchée pour garder sur cette montagne de Valdrome parce que ce sont mes neveux qui l'ont reprise. Cette bergère était très consciencieuse. Elle garde. Elle est toujours avec les brebis. Et malgré tout, eh ben, ce qui se passe maintenant, parce que nous avons fait un parc un peu blindé style Auschwitz, ben, le loup se sert dans la journée. Et comme quand même, il y a quand même un petit peu de forêt, suivant où elle va, d'ailleurs, c'est toujours dans le milieu, l'endroit où il y a un peu de la forêt, eh bien, le loup se sert, mais il se sert discrètement. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas ce qui se passe. Et comme il compte les brebis chaque semaine parce que, à cause de ce problème-là, eh bien, voilà, il perd de 10, 15 bêtes. Et encore, eux, c'est peu. Parce que, voilà, parce qu'elle garde, parce qu'on a un parc blindé. Mais malgré tout, le loup a trouvé une autre stratégie, c'est-à-dire il se sert. Et donc, moi, les années où j'ai vécu la sécheresse, là, on était obligé d'aller plus loin. Enfin, c'était épouvantable. La bergère, elle ne peut pas. Elle ne pourrait pas. Parce qu'on est obligé de rentrer les brebis deux jours. Hein. L'année dernière encore, quand elle a rentré les brebis, le loup suivait le troupeau. Et elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est cette brebis noire là-bas qui traîne ? Non, c'était les loups. Hein. Donc, et elle rentre les brebis deux jours. Enfin, c'est plus un travail. Et la forêt, malheureusement, ben, moi, je vois pour les autres bergers, hein, je discute avec les uns et les autres, beaucoup laissent tomber des secteurs. Ils laissent tomber carrément des secteurs parce que c'est trop loin ou parce que c'est trop boisé et qu'après, ils seraient obligés de rentrer de nuit pour rejoindre le fameux parc de nuit pour les protéger. Donc, je vois mal la situation. Je la vois pas très. Je suis pas très optimiste pour tout dire. J'aime pas parler comme ça parce que c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, qui m'a permis de vivre comme je le désirais. C'est un choix. Et j'aurais aimé que les jeunes puissent avoir également ce choix de vivre dans cette belle région avec un métier qui leur plaît. Et je suis très triste de parler comme ça.
Marie, tu allais réagir?
Oui, je voulais rajouter un petit chiffre par rapport à ce que disait Micheline. Avant, on avait très peu d'attaques de jour. On avait très peu de prédation le jour. Aujourd'hui, 50% des attaques se passent le jour parce que les loups se sont adaptés aux mesures de protection que les éleveurs ont mis en place. Donc les mesures de protection que sont les bergers, les aides-bergers, les chiens de protection, les patous et les parcs de nuit. Et donc la nuit, les bêtes ne mangent plus. Elles sont parquées, elles sont à côté de la cabane. Et donc, il faut bien qu'elles mangent le jour. Mais le jour, pour aller manger en forêt, c'est compliqué maintenant que les loups sont là, nombreux, qui sont adaptés. Et donc, c'est ce que disait Micheline, il y a beaucoup d'espaces qui sont abandonnés du fait de la présence des loups dans la Drôme. Dans le Diois, ce sont 5000 hectares qui ont été abandonnés sur les alpages liés en majorité à cette présence.
Bon, alors donc, pour revenir hein, sur nos moutons de cette table ronde, la forêt a encore de beaux jours devant elle, finalement, a continué à progresser. L'humain, à un moment donné, doit être mis en action par l'État, je pense, vous allez me répondre, sur à la fois sa gestion, on coupe, on change, on permet le développement de nouvelles essences et on repousse le prédateur. André, Micheline, c'est ça ?
Pour ce qui me concerne, oui, c'est ça. C'est ça. Il faut bon, bien sûr que le fait d'ouvrir les paysages, bon, ben, ça facilitera. Mais bon, c'est du ressort de l'État. Effectivement, nous, on est impuissants hein, par rapport à tout cela. Donc, après, le côté gestion forêt, ce n'est pas de mon ressort.
Mmh. Non, mais enfin, la gestion de la forêt, ça fait partie de ça, parce que aujourd'hui. On est en train de dire, voilà, le côté environnemental, il faut réouvrir les paysages. Aujourd'hui, il faut retrouver un équilibre raisonnable. C'est ça qu'on a un tout petit peu perdu actuellement. Je disais tout à l'heure, tout ce qui a été perdu par l'agriculture a été reconquis par de l'espace boisé. C'est le point qui me touche le plus. Là où j'ai vu des cultures, aujourd'hui, je vois y pousser des pins noirs. Moi, ça me gêne. Tout ça. Donc, il faut quand même qu'on ait une possibilité de remettre de la culture, de remettre l'agriculture sur ce territoire. Pas que pour le paysage, ça a aussi un intérêt économique. Bon. Aujourd'hui, la forêt n'est pas une fatalité, l'espace boisé n'est pas une fatalité d'accroissement. On a besoin d'énergie renouvelable sur notre territoire. Le principal ressource d'énergie renouvelable qu'on a, c'est bien le bois. Donc, plutôt que de le laisser envahir, plutôt que de le laisser mourir de sa belle mort, pas force du temps, non, il faut l'exploiter, le renouveler, et retrouver des équilibres qu'on a connus. Quand même, je prends le secteur en particulier, boulk, glandage, tout ça. Grâce, mais vraiment grâce à l'élevage, grâce au travail qui est fait par l'ADEME, il y a des endroits qui vont être reconquis par l'élevage. On a des réglementations maintenant administratives qui font qu'à partir de telle surface, c'est un dossier qui fait 20 cm de haut. Heureusement, on a, nous sort une administration départementale qui est pleine de bon sens, qui dit si vous arrivez, alors je fais un petit peu simple, si vous arrivez à démontrer que ce sont des terres qui ont été cultivées, on va le faire sans trop de formalités administratives. C'est bien quand même qu'il y a une prise de conscience sur le sujet. Alors oui, il faut monter des dossiers, oui, il faut expliquer, mais peut-être pas plus qu'il ne faut. Et aujourd'hui, quand même, on a l'autorisation légale de pouvoir raser 20 hectares de bois, je parle de 20 hectares de bois, pour y mettre du pastoralisme. Il y a peut-être au milieu de ça des propriétaires fonciers privés qui ne sont pas d'accord à ce qu'on coupe du bois. Alors que avant c'était des champs, voilà. C'est bien aujourd'hui, et grâce à vous, grâce aux médias, voilà, je me méfie un tout petit peu de la presse écrite qui interprète un petit peu ce que je vais dire. Là, je constate, à moins qu'il y ait des coupures, que j'ai la liberté de parole, et je vous en remercie. Mais il faut bien mettre tout ça sur la table aujourd'hui, voir, il y a des professionnels de l'élevage, des professionnels de l'espace, il y a des représentants des propriétaires forestiers ou toute autre terre. Je ne suis pas convaincu qu'on ait perdu complètement le bon sens pour remettre ça dans l'ordre. On a les cheveux blancs tous un peu là. Je suis pas pessimiste. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive à un tournant où on devrait quand même force d'explication, force de démonstration, arriver à remettre les choses dans un ordre meilleur. Ouais.
Pour appuyer juste encore un petit peu ça, c'est quand même assez étonnant de se rendre compte qu'il a fallu attendre 2003 pour même que l'ONF, à un moment donné, ait envie de travailler avec d'autres personnes et, a priori, l'activité agricole. c'est lié. Donc d'attendre 2003 pour que ça se fasse, de vous entendre dire qu'il y a encore des propriétaires de bois qui veulent pas le couper. Enfin, je veux dire, quand on a une forêt, ça sert à quoi? Alors, il y a des questions environnementales, ça régénère l'oxygène, etc. Mais ça sert à quoi de la garder sans l'exploiter, finalement? Un dernier message d'éducation populaire.
Purement sur le plan forestier, si je veux m'expliquer comme il faut, parce que tout le reste, je pense qu'on l'a dit. Aujourd'hui, en forêt privée, on a des gens qui ont investi sur 100 ou 200 hectares d'espace boisé, qui ont fait leur placement là-dessus, qui sont obligés, parce que la loi les oblige, à faire ce qu'on appelle des plans de gestion, voilà, c'est-à-dire la forêt, voilà ce qu'on doit en faire. Et les gens nous disent, mais c'est pas forcément des agriculteurs, hein. Les gens nous disent, de toute façon, la forêt, l'environnement, la biodiversité, c'est de ne pas y toucher. C'est de ne pas y toucher. Non, tout ça, ça doit se renouveler. Je dirais, il y a trois, là aussi, hein, parce que c'est quand même complexe, là, on fait ça en 5 minutes, là, c'est un petit peu complexe, même si vous nous ouvrez largement notre écoute, mais sur les espaces boisés, on a tout le niveau, un petit peu fond de vallée, et le contrefort du Vercors, qui sont relativement accessibles, ils sont à peu près gérés, il y a encore de l'agriculture qui y va, c'est pas trop pire. On a un étage au-dessus, un deuxième tiers, qui n'est pas accessible du tout. Donc, c'est bon pour la chasse. Voilà. Et quoique même les chasseurs, eux, ils demandent eux-mêmes qu'on réouvre. Et puis, il y a un troisième étage qui est relativement important. C'est la partie la plus haute où on n'y pourra jamais y faire de desserte, on ne pourra jamais rien y faire. Et il y a de la forêt en libre évolution. Ben, je dirais que tout le monde s'y retrouve sur l'intérêt bas qui est très fortement économique et pour l'agriculture dans l'élevage et pour faire du bois énergie par exemple quand on est dans le sud de Drôme, on n'est pas dans le Vercors. Voilà. L'étage au milieu, c'est justement celui-là qu'il faudrait réouvrir. Ça éloignerait déjà les prédateurs des fermes. Parce que moi, dans mon village de Chamaloc, dans mon jardin, on a des brebis qui sont tuées à 30 mètres des maisons. Il y en a un qui se fait écraser sur la route départementale du col de Rousset à l'intérieur du village. Les loups sont dans les villages. Voilà. Mais pour faire plaisir à tout le monde, il y a quand même ce troisième étage ou de montagne qui représente le tiers de notre territoire. Et je parlais quand même de 350 000 hectares. Ça fait quand même des surfaces où ben, l'environnement, la nature, en libre évolution, elle a sa place aussi. Je dirais, tout le monde a sa place. Qu'on se le dise, qu'on se le mette dans la tête, et qu'on bosse dans ce sens-là, qu'on ait les moyens de bosser dans ce sens-là. Mais il y a de nombreux citoyens, propriétaires fonciers, qui, non, c'est un crime. On en fait une plaisanterie au niveau des forestiers. C'est soit le syndrome Obélix, soit le syndrome Idéfix. Il y en a un qui arrache tout, voilà, avec plaisir, et puis l'autre, à chaque fois qu'on touche un arbre, il se met à pleurer. Donc, c'est ni l'un ni l'autre qu'il faut faire.
Bon, et puis, comme ça, on sait qu'il y a des surfaces très très hautes en montagne à acheter pour ne rien y faire. Donc, allez-y. Ce sera peut-être la conclusion de cette première table ronde avec donc le CRPF, André Aubanel, l'ADEME, Marie Cabrol et Micheline Falcon, pour ex-éleveuse à Val-Drôme, dont on le rappelle, qui est une montagne en train de se refermer. Un mot encore, oui.
Est-ce qu'on me permet la conclusion de dire que ce genre d'échange, c'est formidable, j'en ai rêvé.
Ben, merci à vous, moi j'ai bu vos paroles, je ne savais pas quoi dire d'ailleurs, même des fois. Bonne fête de la transhumance à tous. On va continuer avec diverses choses. Tu voulais annoncer un dernier truc, Marie, sur le programme l'ADEME, vous proposez quelque chose, dans pas très longtemps d'ailleurs.
Oui, à 15h45 au théâtre, vous pouvez approfondir ce sujet du pastoralisme et de la forêt et les enjeux actuels autour de cette problématique. Avec on aura l'ADEME, l'ONF, le CRPF et la DDT, donc tout un groupe d'acteurs qui travaillent autour de ces problématiques. Je pense que les échanges peuvent être très riches. Donc je vous incite à y aller, c'est au théâtre de Die à 15h45.
Allez, un peu de musique.
mamukuye minangomba ushimisa mama wetwe muro yang munachukuliyo sana mama kuye mama kuye mama kuye mama kuye kuwa minakuomba leku mama ushimisa mnachoka sana mama kuye kuwa minakuomba leku mama ushimisa mnachoka sana mama hakuye masiku zote mama hakuye kunyumba yangu mama hakuye masiku zote mama hakuye mama hakuye masiku zote mama hakuye kunyumba yetu mama hakuye karibu yangu mama hakuya ushinisabu leo mina kuomba leo mina ria sana muro yangu kubaridi ya mingi maiwa yetu iku wapi muro yangu kubaridi ya mingi maiwa yetu iku wapi ushinisabu leo mina kuomba leo mina ria sana muro yangu kubaridi ya mingi maiwa yetu iku wapi ushinisabu shinisabu mama yuwo kuyo baridi weke ndera 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 yuwo kuyo na bote bale pe kerbu na weye kubaleto balete kerbu na miye o mina womba usibari ya mingi kuri yangu we mina womba usibari ya mingi kuri yangu we mama 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 kuya leo kushimisa weye usibari yote muro yangu we mama kuya leo kushimisa weye usibari yote muro yangu we mama kuya masiku zote mama kuya kunyumba yangu mama kuya masiku zote mama kuya.